RadioRugbyAmateur.fr.
Toute l'info du rugby.
Interview, talk show, podcast.
Rugby Amateur, la voix des clubs.
Son nom est resté gravé dans les mémoires des supporters, pour de bonnes ou de moins bonnes raisons, dans les mémoires de certains joueurs et de managers aussi. Il a arbitré plus de 200 matchs en top 14 et en pro D2. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un Rodanien, Laurent Cardona. Laurent, bonjour.
Bonjour, salut à tous.
Laurent, je le disais, un vrai plaisir de t'accueillir puisque, bah écoute, tu es un ancien arbitre connu et reconnu. On va évoquer ta carrière, ton parcours. On a reçu récemment Ludovic Kerr, qui est un arbitre en activité. Quant à toi, tu as pris ta retraite des terrains il n'y a pas si longtemps que ça. On connaît ta parole, libre et libéré. Donc, on va essayer de te poser plein de questions et d'avoir toutes les réponses à celles qu'on se pose. La première d'entre elles, tes premiers pas dans le rugby. Tu peux nous les raconter, s'il te plaît ?
Eh ben écoute, j'avais 12 ans, donc j'ai eu 49 ans il y a deux jours, hein, donc vous imaginez bien que c'était dans un autre temps. J'avais 12 ans, et comme beaucoup de jeunes de cet âge-là, tu cherches ton sport. Nous, le rugby à la maison, c'était inexistant, hein, mes parents ne connaissaient absolument pas. T'avais un match du tournoi des 5 nations de temps en temps, la finale du championnat de France que tu pouvais voir à la télé. C'était inconnu. Donc quand j'ai dit un jour à mes parents, je vais aller jouer au rugby avec les copains du collège, parce qu'en fait c'est des copains du collège, hein, qui m'ont dit, viens venir avec nous, Laurent, t'as l'air un peu fracassé, t'as qu'à venir avec nous jouer au rugby. Donc allez, va, un mercredi après-midi, on s'entraîne, une heure et demie, mon premier entraînement de rugby, une heure et demie de plaisir, un truc magique où j'ai adoré ce que j'ai fait.
Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a plu ?
Tout, l'ambiance, le contact physique permis, tu vois, contrairement au foot ou contrairement à d'autres sports où t'es frustré. Au foot, il faut toucher personne, faire tomber personne, voilà, le contact est un peu limité. Alors que là, au rugby, c'est autorisé, dans la règle, bien évidemment, mais c'est autorisé. Donc, vraiment une heure et demie de plaisir. Et sur la dernière situation, donc on fait un petit match, et comme beaucoup d'entraînements se terminaient à l'époque, par un petit match de un quart d'heure, 20 minutes. Sur l'une des dernières situations, il y a une espèce de tas de joueurs qu'on va appeler un ruck. On va dire ça comme ça, plus un tas de joueurs qu'un ruck. Moi, je vois le ballon. Je vois le ballon. Je me mets à genoux. Donc, on imagine quand on se met à genoux pour aller chercher ce ballon, ce qu'on ne fait jamais, ce que personne ne fait. Et je ne sais pas pourquoi un amas de joueurs vient sur moi et donc me plie, tu sais, sur mes genoux et je me fracture le péroné de la jambe gauche. Ah. Premier entraînement. Et un truc qui m'a marqué, c'est que, tu sais, dans d'autres sports, je ne vais pas les citer ici, mais on aura appelé les pompiers. Les pompiers seraient venus, les pompiers auraient pris l'enfant, l'auraient ramené à l'hôpital. On aura appelé les parents pour dire, votre fils, il est à l'hôpital là-bas de Vinicieux, il a certainement quelque chose de cassé, allez le chercher ou allez l'attendre. Mais là, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et c'est ce qui m'a marqué dans ce sport à l'âge de 12 ans. C'est que les entraîneurs m'ont récupéré, m'ont mis dans leur voiture, m'ont amené avec leur voiture à l'hôpital de Vinicieux. Donc moi, je suis né à Vinicieux, donc c'est à peu près 5-6 km du stade d'entraînement. M'ont amené, j'ai passé des radios. Voilà le protocole, j'avais un péroné cassé, c'était pas non plus la fin du monde. À la fin de la radio, quand je suis ressorti avec mon plâtre, j'avais 5-6 copains de l'entraînement qui étaient là, dans les urgences, à attendre. Attendre tout simplement que je sorte de là. Et sorti de l'hôpital, j'ai été récupéré par mes entraîneurs, ramené jusqu'à devant chez moi. Et voilà, et donc ils avaient prévenu mes parents entre-temps, mais de ne pas s'inquiéter, qu'ils s'occupaient de tout. Donc ils m'ont ramené chez moi, et je suis rentré chez moi avec mes béquilles. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, cette solidarité rugby entre les copains, qui n'avaient rien à faire là finalement, quel intérêt ils avaient juste à part venir voir un copain qu'ils avaient vu pour un premier entraînement, et des entraîneurs qui ne me connaissaient absolument pas et qui ont été une famille, quoi. Voilà, tout de suite une famille. Et c'est ça que j'ai retenu de ce premier entraînement et de ce premier contact au rugby. Et forcément, mes 3 semaines de plâtre, j'avais qu'une envie, c'est de vite enlever ce plâtre et retourner à l'entraînement le plus rapidement possible, quoi.
Et donc, bah super. Et donc, comment se passent les semaines et les mois suivants?
Bah écoute, je prends très vite beaucoup de plaisir, hein. Je fais quelques sélections départementales, locales, tu sais, pour jouer au poste de centre. Ils m'ont essayé en numéro 10. Voilà, j'ai fait quelques sélections, mais j'avais pas assez comment dire, de talent pour aller à très haut niveau. Donc j'ai toujours joué dans des clubs promotion d'honneur, honneur, troisième division. Voilà, donc j'ai beaucoup joué avec les juniors d'abord, hein, jusqu'à l'âge de 19 ans. Je dis 19 ans parce que c'est la barrière où j'ai franchi le pas de l'arbitrage.
J'allais y venir.
Voilà, voilà, je jouais avec mes copains, on faisait les tournois. Enfin, ça m'a, c'était vraiment très 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 plaisant, quoi. Et puis chaque saison, chaque temps mort de la saison, j'avais qu'une envie, c'est de revenir à l'entraînement, quoi.
Bon, piqué par le virus du rugby, donc on l'a bien compris.
Ah, clairement.
Et donc, justement, tu l'évoquais, les premiers contacts avec l'arbitrage.
Les premiers contacts avec l'arbitrage, écoute, c'était à l'âge de 19 ans. J'avais la sensation, mais je pense comme beaucoup de gamins de 19 ans, d'être mal arbitré, probablement qu'on était plus mauvais que mal arbitré. Mais j'avais l'impression d'être mal arbitré, j'avais l'impression que le physique des arbitres, petit tonton bedonnant avec une moustache qui arrivait là pour arbitrer un match de junior le samedi, je jouais numéro 9, on m'avait replacé au poste numéro 9, donc j'avais l'impression, voilà, d'être mal arbitré. Et donc je râlais beaucoup,
Comme tous les
comme un
numéros
numéro
9, en fait,
9,
hein, comme tous les
voilà,
numéros
comme un numéro 9 digne de
9.
ce nom. Et à un moment donné, je me suis dit, plutôt que de râler, est-ce que toi, tu peux pas apporter quelque chose, tu vois? Est-ce que tu penses pouvoir faire mieux que les arbitres qui viennent t'arbitrer le week-end? Alors, à l'époque, tu pouvais jouer, tu sais, ils n'étaient pas trop regardants avec tu jouais un match le samedi, après
Oui.
tu allais jouer le dimanche avec les seniors. Ils n'étaient pas trop regardants à l'époque, tu pouvais jouer trois matchs dans 3 jours, il n'y avait aucun problème pour personne, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais à l'époque, voilà, tu pouvais faire ça. Tu pouvais faire ça et donc je jouais le samedi et le dimanche, voilà. Donc j'avais, bah, tous ces arbitres-là arbitraient plutôt mal. Et donc j'ai commencé l'arbitrage comme ça, en me disant que je pouvais probablement apporter quelque chose et probablement aider la corporation et essayer de voir si moi, peut-être que c'était pas si facile que ça, et voir si je pouvais faire différemment. Donc j'ai commencé à 19 ans et j'ai joué comme ça, j'ai joué et arbitré. Pendant 5 ans, donc jusqu'à l'âge de mes 24 ans, où à 24 ans, il a fallu que je fasse un choix entre le jeu et l'arbitrage, parce que pour monter dans les étages de l'arbitrage français, là, il fallait faire un choix, tu pouvais pas jouer et arbitrer en même temps. Donc à l'âge de 24 ans, j'ai choisi d'arrêter de jouer parce que des rencontres, on en parlera peut-être, mais des rencontres m'ont fait comprendre que j'avais un certain potentiel pour pouvoir accéder au plus haut niveau.
Mais on va en parler tout de suite, hein. Ces rencontres, quelles sont-elles?
Eh bien, écoute, il y a une rencontre qui m'a marqué. Je faisais un match. Donc, entre-temps, j'ai déménagé. Je suis arrivé dans la belle région de Provence, puisque j'ai habité longtemps à Aix-en-Provence. Et j'ai arbitré donc les matchs sérieux de ce comité qui était. Voilà, ça fait partie des comités où on va dire que les matchs se passent rarement bien. Voilà, on va le dire comme ça. Même si j'ai rien contre le rugby breton ou le rugby du Nord-Est. Mais c'est souvent des rugby, ou même en Charentais, là où je suis, c'est souvent des matchs qui sont très corrects, qui se passent bien. Mais le sang chaud de la Provence faisait que tu avais toujours des matchs difficiles à arbitrer avec une certaine excitation. Voilà, on va le dire comme ça.
D'accord.
Et un jour, j'arbitre un match qui était les Penn Mirabeau Cadenot. Alors, il n'y a que les puristes qui peuvent savoir où c'est. C'est à côté de Marseille. Contre Istres. Alors, Istres, c'est plus connu quand même. Hein, ça dit quand même les grandes heures du club de Istres. Et c'était un gros match d'honneur. Donc, j'étais pas encore arbitre fédéral à l'époque. Et donc, j'arbitre ce match qui était très houleux. C'est un match sur lequel je n'ai jamais donné le coup d'envoi. Tu vas me dire pourquoi tu n'as jamais donné le coup d'envoi? Bah, tout simplement parce que l'équipe de Istres, l'équipe des Penn Mirabeau qui voulait mettre la pression sur Istres, parce qu'il y avait beaucoup d'intox avant le match, hein, les mecs qui se mettaient la pression déjà avant. A choisi, alors que l'équipe de Istres était sortie déjà du vestiaire, a choisi de faire patienter tout le monde en disant ici on est chez nous. Et donc c'est pas parce que l'arbitre nous appelle qu'on va sortir. On sortira quand nous on a décidé. Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu montrer aux autres que c'est le patron, c'est pas l'arbitre, c'est nous. Eh bien, ils sont sortis au bout de plusieurs fois que je les ai appelés. Et quand ils sont venus, je leur ai dit, bon, écoutez, vous avez choisi délibérément, ça fait plus de 5 minutes que je vous ai appelé, vous avez choisi délibérément de ne pas sortir, eh bien, il n'y aura pas de, coup d'envoi. On commencera par pénalité contre vous, voilà, sans coup d'envoi. Donc, et après coup, j'ai appris que ce n'était pas légal, qu'un match, il fallait à tout prix qu'il ait un coup d'envoi. Bon, bref, voilà, je l'ai fait comme ils ont voulu faire, comme ils avaient voulu, ben, j'ai fait comme moi, j'ai voulu. Voilà, donc c'est un match qui n'a jamais commencé. Et donc, à la fin de ce match, je suis tombé sur un personnage que tout le monde connaît dans le rugby, bien évidemment, qui s'appelle Didier Méné.
Ah oui.
Et Didier Méné est venu me voir avec ses petites lunettes, là. Vous vous rappelez Didier Méné, hein, avec ses petites lunettes, là, comme ça, là, avec son air plutôt très sérieux. Il me dit, dis-moi, toi, gamin, t'en es où, là, dans tes examens? Bah, je dis, moi, tout naturellement, je savais très bien qui c'était, Didier Méné, puisque je l'avais vu au tournoi des Cinq Nations, etc. Donc, j'étais plutôt intimidé. Je lui dis, bah, j'ai mon diplôme régional, j'ai mon diplôme... J'ai mon diplôme stagiaire et régional, parce que c'est comme ça que ça se passe, mais je n'ai pas mon fédéral, parce que pour l'instant, je m'en fous un peu, je joue encore avec les copains. Bon, il me dit, écoute, je pense que tu as un potentiel pour faire du très haut niveau, donc il faut que tu, maintenant, il faut que tu choisisses. Voilà. Et c'est ces paroles-là qui m'ont convaincu pour arrêter de jouer et basculer dès l'année suivante pour passer mon diplôme fédéral et qui m'a permis d'accéder à la troisième division par la suite. Et puis, j'ai gravi les étages de l'arbitrage français année par année, quoi. Je suis monté de division année par année. Voilà, bon. Donc jusqu'à accéder au top 14.
Une rencontre fondatrice à 24 ans, donc. Oui. Est-ce que là, tu te dis, fort de ces paroles sages venant de quelqu'un d'expérimenté, oui, j'ai un plan de carrière?
Non.
Pas du tout.
Non, parce que c'est pas parce qu'on te le dit que tu le crois en toi, quoi, tu vois. Même si c'est. Bon, je me disais quand même que, c'est que l'expérience de Didier Méné était quand même énorme. Il avait déjà fait 2 finales de championnat de France, plus d'une quinzaine de matchs de test match. Donc, si quelqu'un comme ça prend la peine de venir voir un jeune comme moi, parce que j'avais 24 ans à l'époque. J'avais 24 ans à l'époque, oui, ça. J'avais 24 ans à l'époque, il prend la peine de venir voir un jeune comme moi pour me dire ces mots-là, c'était pas des paroles en l'air, quoi. Donc, ça m'a permis de me lancer dans le projet arbitrage, ce que je n'aurais jamais fait si j'avais pas rencontré Didier Méné. Je serais probablement resté arbitre et joueur, tu vois, toute ma carrière, sans en faire plus, quoi.
Donc, pas de regret d'avoir arrêté la carrière de joueur, pas de regret sur le plaisir de jouer et à contrario, la découverte d'un plaisir de diriger les rencontres de plus en plus, à des niveaux plus en plus hauts.
Ouais, non, pas de regret. Alors, bien sûr, ça m'a manqué au début. Hein. L'esprit collectif, l'esprit équipe, parce que je jouais à Salon de Provence quand j'ai arrêté ma carrière et on était en Fédéral 3 à l'époque. Ça me manquait. Donc quand j'arbitrais, tu vois, quand j'arbitrais dans le Lyonnais par exemple, quand je redescendais, je m'arrêtais systématiquement dans mon club à Salon de Provence le dimanche pour pouvoir faire la bringue avec eux. Hein. On sait bien que sans la troisième mi-temps, on serait jamais venu aux deux premières. C'est pas de moi bien évidemment, mais en tout cas, et je faisais toujours la troisième mi-temps avec mes copains de salon, même quand j'allais arbitrer, quand ma route me faisait passer devant, ou des fois même quand elle me faisait pas passer devant, j'y allais quand même. Donc voilà, c'est ça ce qui m'a manqué le plus, et le jeu bien évidemment, mais en même temps j'ai découvert tellement de choses dans l'arbitrage, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois, j'ai fait des matchs extraordinaires à pression, donc non, j'ai aucun regret. De toute façon, j'avais pas un niveau de jeu qui m'aurait permis d'accéder de très très haut niveau. J'aurais fait 3e division, peut-être 2e division fédérale, mais sans faire plus, quoi.
Et donc tu es en fédéral 3, tu montes en fédéral 2, fédéral 1 de l'époque qui est la 3e division.
Oui, c'est ça.
À quel moment tu embrayes vers le semi-professionnalisme ou les premiers matchs, en tout cas quand est-ce que tu tâtes de la Pro D2?
Alors, j'ai plus les dates exactes en tête, mais je monte chaque année. Hein, je monte, tu l'as bien dit, hein, 3e division, 2e division, 1e division fédérale. Et là, dès l'année suivante, je monte en Pro D2. Donc vraiment, sur 4 ans, je franchis toutes les étapes, toutes les catégories. Et là, en Pro D2, j'y reste un an et demi, sachant très bien que je monterai en top 14 assez rapidement. On me l'avait dit, voilà, on m'avait dit qu'il fallait que je passe à tout prix tous les paliers, que j'exerce au moins un an sur tous les paliers pour pouvoir accéder au plus haut niveau de l'arbitrage français. Et donc j'y suis resté un an et demi. Et en janvier 2000, alors attends, j'arrête en 2022, j'ai plus les dates exactes. Bref, en janvier, j'ai atterri au Racing. J'ai fait Racing Bourgoin pour mon premier match de top 14, quoi. Entraîneur Pierre Berbizier à l'époque, donc ouais, tu vois, ça remonte un peu, et Bourgoin forcément en top 14, encore à l'époque.
Et donc, tu en gardes quoi comme souvenir? Tu es sous pression,
Oui.
bon, j'imagine que tu es entouré, mais on a quand même une pression différente.
Ouais, je trouve que j'étais plutôt décontracté pour un mec qui faisait son premier match de top 14. Un peu trop même. Si tu veux, là pour le coup, j'étais sûr de mes forces. Voilà, j'avais une certaine confiance en moi sur ce premier match. Que pourtant, voilà, on pourrait avoir peur, on pourrait avoir une pression négative. J'avais une pression, mais pas négative. Et j'ai failli me planter sur ce match, notamment au niveau de la règle, où ouais, c'était très compliqué les carences. Hein, chaque année, on a changé la règle. Bon, et là, il y avait le droit à la double carence. Et à un moment donné, la carence que je réexplique aux auditeurs, c'est vraiment quand un pilier ne peut, enfin, quand on n'a plus de pilier à un poste. Par exemple, au poste de pilier gauche, il n'y a plus personne pour jouer. On fait rentrer un pilier droit pour jouer pilier gauche. Mais comme il n'est pas pilier gauche, c'est la carence. Donc, on enlève un joueur du terrain pour faire rentrer en première ligne. Donc, l'équipe joue à 14. Et j'ai le même phénomène à Bourgoin, où j'ai un deuxième cas où le pilier droit ou le talonneur, je ne sais plus trop, il n'y a plus de talonneur pour jouer. Donc, il faut faire rentrer un pilier au poste de talonneur qui n'est pas talonneur. Et je dis à Lionel Nallet, bah, il n'y a pas de double carence, donc non, j'enlève pas un deuxième joueur. Donc, il n'y a pas de double carence. Et lui, Lionel Nallet, grand comme deux, comme pas deux, qui me regarde, qui me dit, si, si, monsieur l'arbitre, je crois bien qu'il y a double carence. Et moi, bien évidemment, obtus, hein, c'est-à-dire jeune et obtus, je dis non, non, je vous assure que non. Et dans l'oreillette, Jean-Marie Piraveau, qui est aussi un arbitre très connu à la retraite depuis un petit moment, qui était arbitre vidéo, me dit, non, Laurent, tu déconnes, il y a bien la double carence, c'est bien, il y a bien la double carence, il faut que tu l'appliques, il faut que tu l'appliques. Et donc voilà, je m'en suis sorti, donc finalement à l'écran, pendant le match, ça se voit quasiment pas. Mais je m'en suis sorti comme ça, grâce à l'aide de l'arbitre vidéo, Jean-Marie Piraveau à l'époque, où j'ai finalement appliqué la double carence. Donc c'est bien Lionel Nallet qui avait raison sur cette situation.
Comme quoi, les deuxièmes lignes connaissent bien les
Comme
règles.
quoi. Comme quoi. Et capitaine
Et capitaine en plus. Donc bon, ça c'est un souvenir parmi tant d'autres, parce que ta carrière a été jalonnée justement de grands souvenirs. C'est quoi qui domine aujourd'hui avec du recul sur ta carrière, puisque je le disais en intro, tu as arbitré plus de 200 matchs en top 14 et Pro D2 cumulés. Tu as fait des matchs internationaux. Qu'est-ce qui domine?
Oh, un sentiment de fierté, sentiment de fierté de ma carrière, avec ses hauts et avec ses bas, tu viens de le dire très justement, hein, mais je crois qu'il n'y a pas, il n'y a pas une carrière d'arbitre qui n'a pas de hauts et de bas. Sentiment de fierté, un sentiment de. Ça m'a coûté beaucoup, hein, et familialement parlant aussi. Mais si c'était à refaire, je referais. Alors je changerais quelques trucs tout au long de ma carrière, je me donnerais des moyens peut-être différents, parce qu'il y a certaines opportunités en termes de carrière que je n'ai pas saisies. À tort, peut-être parce que j'étais trop jeune et que je les ai prises un peu trop de haut,
Comme
un
quoi?
petit manque de. Bah, j'aurais pu faire une carrière internationale bien plus intéressante. J'étais promis à une carrière internationale beaucoup plus intéressante, mais j'avais une certaine, comment dire, certaine, je sais pas, j'en faisais pas ma priorité. Enfin, j'en faisais ma priorité de vie, mais j'étais pas non plus. J'étais pas non plus comme quelqu'un d'hyper stressé, qui voulait à tout prix obtenir des résultats, etc., etc. Ce que j'avais m'allait bien, et du coup, j'ai pas fait des efforts en Coupe d'Europe, à l'international. Tu vois, j'ai parlé anglais tard. J'ai parlé comme il faut anglais tard, trop tard d'ailleurs. Sachant que l'anglais, je le dis pour tous les jeunes arbitres qui écoutent cette interview, il faut savoir parler anglais si vous avez l'intention d'être un arbitre de haut niveau, mais vraiment bien anglais en plus, parce que à l'international, vous allez être confronté à des gens Je ne parle pas du terrain, parce que diriger un match en anglais sur un terrain, c'est facile. On va dire que les choses reviennent systématiquement, c'est quasiment les mêmes, quoi. Mais le côté politique à l'extérieur du terrain, c'est-à-dire parler avec les superviseurs, parler avec les entraîneurs, créer du lien social avec tous ces gens qui font la sphère du rugby en anglais, et en anglais plutôt très correct. C'est très très important, et moi j'ai pas fait cet effort, j'ai pas fait un effort suffisant sur ce domaine-là.
Et, donc ça a été une barrière.
Du coup tu avais une barrière de la langue qui m'empêchait de faire les choses, parce qu'on sait que les grandes décisions se prennent plus dans les couloirs que dans les réunions officielles. Et voilà, et là j'ai manqué de choses. Ouais, mais mes rapports de supervision qui m'arrivaient en anglais, il fallait que je réponde en anglais. J'ai pas été bon là-dessus, quoi. Donc c'est toutes les petites choses, des efforts que j'ai pas fait, qui m'ont empêché, qui m'ont bloqué pour accéder au plus haut niveau. Et à l'époque, c'était pas très grave. Et aujourd'hui, je me dis quand même, c'est bien dommage de pas avoir fait ce qu'il fallait alors que t'étais en plein dedans, quoi, à l'époque, pour pouvoir accéder au plus haut niveau.
Donc s'il y avait un regret, ce serait celui-là.
Ouais, ça fait partie des regrets de ma carrière d'arbitre.
Bon. Impossible, ou difficile en tout cas, de ne pas discuter avec toi et de ne pas évoquer deux, trois points très médiatiques qui ont jalonné ta carrière. Tu me vois arriver avec mes grands sabots.
Oui.
pas de surprise à ce niveau-là, mais c'est toujours... Par contre, je crois pas qu'on t'ait entendu beaucoup là-dessus, mais c'est à la fois des cas très médiatiques et à la fois très différents. Bon, le premier d'entre eux, évidemment, c'est le clash avec Bernard Laporte.
Oui.
Qui, alors j'essaie de reprendre ma fiche, qui avait dit, je cite, hein, qui t'avait traité d'incompétent complet, de pipe, qui ne pouvait pas cautionner que tu les arbitres. Alors il était manager à Toulon, hein, à ce moment-là, que tu les volais à chaque fois, que c'était pas sur cette action-là que tu étais nul. Enfin bon, il avait été, plutôt. Franck Ducollier, selon lui, est plutôt virulent. Il avait pris 13 semaines de suspension, il me semble bien, voire plus, une amende.
Et un appel, oui, parce qu'il avait fait appel de la suspension, et la FFR avait alourdi l'appel de 3 semaines, donc c'était passé à 16 semaines.
C'est ça. Toi, à ce moment-là, parce que là, on est en 2014, au moment où Toulon est au sommet, on le rappelle pour les plus jeunes auditeurs. Comment tu perçois ces critiques-là, et comment tu les vis, comment ça se passe dans ta tête, hein?
Alors, juste pour remettre un petit bout de cadre là-dedans, on est en janvier 2014, le 4 janvier 2014 très précisément. Toulon est une équipe de All-Star Game, hein, pas se mentir, avec énormément de joueurs très importants. Alors, on va citer bien évidemment en tête de proue Johnny Wilkinson, mais on peut Bakis Botta, on peut citer pas mal de joueurs internationaux et excellents sur un terrain. Mais il y a un mais là-dedans. Depuis le début de cette saison-là, la 2013-2014, Toulon ne marche pas comme il faut. Toulon balbutie de son rugby, malgré ses perd des matchs qu'il ne doit pas perdre, mais arrive quand même à rester dans son parcours. C'est un Toulon qui ne joue pas bien. Mais à la rigueur, j'ai envie de dire ça, c'est pas le rôle d'un arbitre d'analyser ce genre de choses. Tu vois, je fais juste un constat. Je fais pas une analyse, je fais juste un constat. Et c'était la vérité à l'époque. Et donc j'arbitre un match, on m'envoie faire Toulon-Grenoble un 4 janvier, donc avec une météo froide, un terrain pourri et pas une envie extraordinaire de jouer au rugby pour tout le monde. Et sur une dernière situation, donc la dernière situation du match, donc Toulon menait dans ce match de pas beaucoup de points, mais dans un match totalement nul, hein, totalement nul de la part de tout le monde. Il y a une dernière situation, je laisse un avantage pour une entrée latérale sur un maul, et on se passe le ballon, quoi, hein, sur le latéral. Et à un moment donné, au bout de plusieurs secondes, minutes même, à un moment donné, il y a une ouverture qui se crée à force de balayer de droite à gauche le terrain. Et il y a 5 joueurs toulonnais, donc c'est Johnny Wilkinson qui a le ballon dans les mains, 5 joueurs toulonnais sur la gauche, il reste 15 mètres de couloir contre 2 grenoblois. Et à ce moment-là, au moment où Johnny Wilkinson arme sa passe, je dis avantage terminé. Alors mon erreur, parce qu'il y a quand même une erreur dans cette situation, c'est que si tu veux, je me suis trop projeté sur ce qu'allaient faire les joueurs. Parce que je voyais un 5 contre 2, et quand on a un peu joué au rugby, qu'on est un petit peu technicien, ben on se dit qu'un 5 contre 2, ça finit généralement à dame, surtout quand c'est bien joué. Et là, au moment où je baisse le bras, Johnny Wilkinson choisit de faire, je ne sais pas pourquoi, il faudra lui demander à lui, mais choisit de faire une sautée. Donc, ce qu'on ne fait jamais quand on est en surnombre, choisit de faire une sautée. Et Ratini, ben, quand on est en défense et qu'on n'est que deux, qu'on est en sous-nombre clair, qu'est-ce qu'on essaye ? On essaye toujours de faire une interception parce que c'était tout ce qui reste, quoi. Parce que ça ne sert à rien sinon. Et donc, il fait une interception, Ratini chope le ballon et va entre les poteaux du RCT. Donc, l'avantage, je l'avais donné terminé. Et du coup, tout Grenoble gagne. Alors, Grenoble, on rappelle qu'effectivement, tu l'as dit, Toulon était au plus haut des niveaux, avait déjà gagné un titre et un titre de Coupe d'Europe, je crois, de mémoire, je ne sais plus exactement l'historique. Mais Grenoble était là, lutter pour le maintien, quoi. Hein, lutter pour le maintien, il n'était pas du tout au niveau de Toulon. Et voilà, donc, et Grenoble gagne sur cette situation, et d'où le déferlement médiatique après de la part de Bernard Laporte, Mourad Boudjelal. Voilà, ça a été un moment pénible à vivre. Mais comme je n'étais pas professionnel, je travaillais dans un garage automobile. À l'époque, je travaillais dans l'automobile. Je travaillais chez Renault à Marseille. Et à Marseille, le rugby, si tu veux, c'est pas le truc dont on parle. Hein. C'est plutôt l'Olympique de Marseille, surtout que le garage où je travaillais était pile en face du Vélodrome. Donc, t'imagines. Donc, j'avais pas trop de bruit dans mon travail. Mais par contre, j'avais mon téléphone qui n'arrêtait pas de sonner, les déclarations dans la presse, etc. Voilà. Donc ça a été loin. Et en 2014, les réseaux sociaux n'avaient pas encore trop de pouvoir, contrairement à aujourd'hui. Donc je n'ai pas trop été ennuyé avec les réseaux.
Et est-ce qu'il y a eu réconciliation sur le tard ?
Oui, bien sûr, il y a eu un déferlement. Alors, Bernard Laporte était quelqu'un de très impulsif, peut-être moins aujourd'hui avec l'âge, mais de très impulsif. On le voit quand il était sélectionneur de l'équipe de France, on voit. Donc, c'est les paroles qu'il a prononcées sur le message que j'ai pu dire ou que j'ai diffusé sur un montage YouTube, sur ma chaîne YouTube, parce que on va en parler certainement après, mais j'ai créé une chaîne YouTube où je parle beaucoup d'arbitrage et je reviens sur les événements de ma carrière. Je rediffuse quelques morceaux du message téléphonique qu'il m'a laissé. Et il y a des propos à l'intérieur qui peuvent choquer le commun des mortels, et ce que je comprends tout à fait. Mais dans la bouche de Bernard Laporte, c'est différent, quoi, parce que c'est de l'excès. Et donc voilà. Donc et après coup, quelques semaines après, 2 mois, je crois à peu près 2 mois après, 2-3 mois après, Toulon se retrouve aux portes d'une finale de top 14 et d'une finale de Coupe d'Europe. Et donc, il y a un déjeuner qui est organisé par Franck Massiello, qui était le directeur technique national adjoint à l'époque de l'arbitrage, qui est toulonnais aussi, et qui organise une réunion entre Henri Mondino. Donc Henri Mondino, pour ceux qui le connaissent, fait partie du comité Côte d'Azur et bon, maintenant de la Ligue Provence, Bernard Laporte et Mourad Boudjelal et moi-même. Et donc, on mange à hier, on mange au Mourillon, je crois, de mémoire, dans un restaurant. Et donc, on échange, le repas est cordial, voilà. Il y a des excuses qui sont prononcées par Bernard Laporte, par Mourad Boudjelal, que je prends tout à fait, il n'y a aucun problème là-dessus.
Et là, ils te font passer une valise, donc, tu me disais, hors antenne.
Comment ?
Et là, ils te font passer une valise hors antenne.
Ouais, exactement. Une valise qui m'a permis de faire gagner Toulon après, à chaque fois que j'ai arbitré.
On plaisante, et, évidemment.
Et non, Mourad Boudjelal me dit, tu sais, Laurent, il me dit, ce match a fait. Le vestiaire s'est mis à parler après ce match. Parce qu'il y avait des mois et des mois et des mois que les gens ne parlaient pas à l'intérieur. Et de grands joueurs, il me dit. Hein. Mais de grands joueurs, et le vestiaire s'est mis à parler après ce match. Donc on a percé tous les abcès, tous les non-dits qu'on avait dans notre vestiaire. Et c'est probablement, et il ne me dit pas probablement, il me dit très certainement grâce à ce match que nous avons perdu contre Grenoble, qui nous a amené aujourd'hui aux portes de 2 finales, une de top 14 et une de Coupe d'Europe. Donc il me dit quelque part, si on en est là aujourd'hui, involontairement, c'est un peu grâce à toi. Donc voilà, donc c'était assez marrant et ça m'avait fait sourire. Voilà, donc c'est souvent les défaites les plus inattendues qui font effectivement réagir un vestiaire, quoi.
Bon, tout est bien qui finit bien sur la rade. Un autre épisode, je disais, il y avait trois épisodes marquants. Le deuxième, c'est le barrage d'accession en Pro D2 entre Rouen et Albi, où là, à l'époque, c'était un match, je le rappelle, un match aller-retour. C'était la Fédéralune, donc la Fédéralune de l'époque, c'était la 3e division, je le redis. Match retour à Rouen, et Rouen se qualifie, monte en Pro D2 pour un point. Et alors là, tu es la cible de toutes les critiques albigeoises, mais des violentes en plus.
Encore plus violente que celle de Toulon.
Voilà, c'est pour ça qu'on monte d'un cran. J'ai retrouvé même quelques noms d'oiseaux. On parle de scandale, de vol. On t'a traité de voleur, hein, clairement. Y compris dans les institutions. C'est tout Albi qui s'est ligué contre toi.
La mairesse, je crois que c'était une maire à l'époque d'Albi, qui a fait un article. J'avais vu tout ça. Ouais.
Et toi, je sais que tu avais contré ces attaques-là, ces critiques-là aussi, en évoquant que tu avais parlé de cabale organisée par un journaliste sur les réseaux. Tu peux nous en dire un peu plus ?
Alors, j'ai plus les détails de tout ça. Je me rappelle très très bien de ce personnage albigeois qui est un journaliste qui tient plusieurs journaux, et en tout cas qui fait travailler énormément de journalistes pigistes. Je sais que le métier de journaliste est un métier très compliqué, hein. Y a pas, tous les journalistes ne gagnent pas leur vie en écrivant leur ligne. Je sais comment ça se passe. Et il avait organisé cette cabale contre moi, effectivement. Ouais. J'ai plus son nom, je le retrouverai s'il y a besoin.
Non, mais sans citer son nom, mais en tout cas, ce qui m'intéressait, c'était de voir quelle avait été ta réaction à l'époque.
Une vraie cabale organisée, je l'avais clairement dit. Je l'avais répondu à Esprit de la Règle à l'époque. Et je l'avais clairement dit. C'était très, très bien ficelé. C'était une cabale organisée. Bon, c'est comme ça. Pour revenir au sportif, j'ai fait un très, très mauvais match. Avec le recul, très rapidement, hein, quand j'ai revu le match, parce qu'on a loupé, je dis on, parce que j'en ai voulu à mes juges de touche, à mes assesseurs à l'époque, qui avaient été défaillants tout autant que moi, mais forcément, la responsabilité revient à qui ? Revient à celui qui tient le sifflet, ce qui est normal, le patron, c'est celui qui tient le sifflet, donc il n'y a aucune raison qu'il se défausse quand ça se passe mal. Et donc, on avait loupé des situations en défaveur d'Albi, clairement en défaveur d'Albi. Qui leur avait probablement coûté le match. Et je connais l'importance pour un club de niveau national maintenant, alors à l'époque c'était Fédéralume, mais niveau national, de monter en Pro D2. Voilà. Et pour la petite anecdote, ce week-end, au moment où on enregistre l'interview, donc ce week-end qui vient de passer, j'étais sur le beach rugby à Marseille. Le beach rugby à Marseille, c'est un tournoi européen de beach rugby à plaquer que j'arbitre chaque année. Chaque année, je vais dans ce tournoi-là parce que c'est des amis et que voilà, je le fais à titre tout à fait bénévole et je viens arbitrer ce tournoi. Et dans une des équipes, il y avait, alors je n'ai plus son nom et je m'en excuse, il y avait un ancien troisième ligne d'Albi qui a joué six saisons à Albi. Et sa première saison à Albi, elle s'est finie sur ce match-là. Et il est venu discuter avec moi, il me dit, je veux juste savoir, j'ai deux, trois questions à te poser, est-ce que ça t'ennuie si on en discute ? Donc il m'a posé les questions suivantes. Est-ce que tu as eu des consignes de la Fédération française de rugby pour faire monter à tout prix Albi ? Parce que c'est ce qui. Rouen, dans le lapsus. Rouen. Je dis, il me dit parce que vraiment, c'est ce qui s'est dit dans le vestiaire, que Rouen devait à tout prix monter et que tu avais été envoyé pour que Rouen monte. Bon, je vais bien évidemment expliquer que c'était absolument faux, que la Fédération française de rugby ne donnait aucune consigne de ce style-là. J'ai fait 20 ans de carrière et j'ai jamais eu une seule allusion de la part de n'importe quel dirigeant de la Fédération française ou de l'arbitrage indiquant une préférence pour tel ou tel club. Ça n'est jamais arrivé et ça n'est certainement pas arrivé sur ce match-là. Après, il m'a demandé, oui, à la fin du match, tu demandes le score pour savoir où t'en es sur les deux matchs. Alors nous, on a pensé que c'était juste parce que tu voulais pas qu'on gagne et que tu voulais t'assurer qu'on n'était pas en train de gagner. Mais je dis, vous vous rendez compte de ce que vous dites ? C'est incroyable. Je peux comprendre que la psychose monte rapidement, mais je dis, vous pensez qu'un homme une classique, un arbitre, vient et demande à ses assesseurs, avec un micro accroché à son maillot, vient demander le score pour, vous, pour m'assurer que vous n'étiez pas en train de gagner. Je dis tout simplement, c'est qu'on approchait sur la fin du match et que des prolongations, ça se prépare. On fait pas, on siffle pas juste la fin du match en se disant bon bah on en est où, hein, on fait des prolongations, bah alors on y va. Et je dis ça se prépare, donc j'avais besoin de savoir si on allait passer en prolongation ou si le match allait se terminer quand le temps réglementaire serait terminé. Donc ah d'accord, je comprends tout ça. Et puis voilà, il y a une ou deux situations dont on a parlé, un hors-jeu énorme d'un troisième ligne de Rouen qui n'a pas été vu par mon assesseur pour le coup sur ce à l'époque. Quand on voit bien sur la situation, j'ai le dos totalement tourné à ce hors-jeu. Et puis, c'est le premier plaqueur sur l'arrière d'Albi. Et en plus, l'arrière d'Albi garde le ballon au sol. Donc, ça finit par un carton jaune contre lui. Donc, bien évidemment que la situation est techniquement insoutenable et insupportable. Même moi, je m'en veux énormément d'avoir été mauvais sur ce match. Donc voilà, donc ça c'est un des plus grands regrets de ma carrière. Autant Toulon-Grenoble, je n'ai pas de regrets particuliers sur ce match parce que je n'ai pas eu la sensation de mal arbitrer. Qu'on ne soit pas d'accord avec une décision, je l'entends. Autant sur le match Albi, enfin Rouen-Albi, le match retour de Fédéral 1, c'est un match marqué d'une croix noire, quoi. Vraiment, c'est un point noir dans ma carrière. Et ce match restera dans ma mémoire toute ma vie parce que rien ne me plaît dans ce match, le début, la fin, le milieu, tout. Enfin, et après l'interprétation, qui en effet, je peux comprendre les Albigeois, les joueurs albigeois qui finissent par interpréter tout ce qui s'est passé, quoi. Quand on veut interpréter quelque chose, on peut lui faire dire à tout ce qu'on veut. Mais voilà, donc c'était cette conversation avec le joueur albigeois, le troisième ligne albigeois, était hyper intéressante. On a fini par boire un verre ensemble, bien évidemment, et puis voilà, et puis on a continué. C'était très intéressant, ça m'a beaucoup plu, ça m'a permis de finalement donner ma parole à un acteur de ce match, parce que je n'ai pas eu beaucoup de relations avec les acteurs de ce match de l'époque.
Écoute, merci pour ces confidences, puisque c'est très intéressant pour nous aussi de t'entendre parler avec autant de transparence et de franchise, hein, tout simplement. Je ne crois pas t'avoir entendu parler aussi franchement de ce match-là. Donc,
non, jamais. Ouais, je n'ai pas eu l'occasion, en fait, si tu veux, de pouvoir échanger avec les acteurs ou de faire voilà, dans la presse, etc. Non, j'ai pas eu l'occasion. On m'a beaucoup parlé de Toulon-Grenoble, mais beaucoup moins de Rouen-Albi.
Mais écoute, pour te remercier de ta franchise, je vais aussi saluer ton humilité, ta transparence sur le troisième épisode que je voulais évoquer avec toi, quand tu avais expulsé Sergio Parisse. On en avait parlé, oui, sur Rugby Amateur pour dire que bah, tu faisais partie des arbitres qui avaient eu, écoute, oui, l'humilité, la reconnaissance en tout cas de t'être trompé sur cette expulsion-là, sur un plaquage que tu avais jugé haut. Et c'était pas si courant que ça, qu'un arbitre puisse revenir sur son erreur avec autant de transparence.
Ouais. Bah, en fait, c'était une percussion en fait, de la part de Sergio Parisse qui avait le ballon. Et j'avais jugé qu'il avait projeté son épaule dans la bouche du joueur catalan.
C'est ça.
C'est comme ça que je l'avais jugé. C'était en début de saison, je me rappelle. Je crois que c'était au mois d'août ou début septembre. Il faisait très chaud à Perpignan. Bon, pas d'excuse. Hein, je remets juste un contexte. Hein, c'est pas du tout une excuse. J'étais avec mon ami Thomas Charabas qui était à la touche. Un ami, vraiment. Et à deux, enfin, c'est moi qui porte la responsabilité, mais à deux, sur ce grand écran-là, on était convaincus de ce qu'on faisait à ce moment-là et de la décision qu'on était en train de prendre. Donc, carton rouge contre Sergio Parisse. C'était le deuxième que je lui mettais dans sa carrière, quand même. Et donc, ça a fini que le Stade français a gagné ce match. Finalement, le fait de jouer à 14 n'a pas perturbé le résultat final. Et en rentrant à la maison, tous les arbitres revoient leur match et ont la nécessité de donner un rapport. Ils font leur auto-évaluation. Cette auto-évaluation, elle sert aux responsables des arbitres qui regardent si l'arbitre a compris son match et s'il s'est trompé ou pas, est-ce qu'il a bien compris ou perçu.
Le soir
c'est
même
très
du
important
match.
Pour savoir si un arbitre est calé, quoi, et calé sur ce qui se passe.
Le soir même du match.
Le soir même du match, pas tout à fait le soir même, le lendemain, parce que j'étais à Perpignan, j'habitais où à l'époque, je sais plus si j'habitais encore en Provence ou si j'étais à Angoulême. Je crois que j'étais à Angoulême. Donc le temps de rentrer, tu vois, je fais ça le dimanche, quoi, le lendemain du match. Et là, aux images, à tête reposée, pas de transpiration, pas de public qui crie, etc. Je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'on a branlé, quoi. Désolé de le dire comme ça, mais qu'est-ce qu'on a branlé, quoi. Il a rien fait. Enfin, il fait rien, quoi. Il vient, il a le ballon en main, il propulse son épaule vers l'avant, mais comme tout joueur qui vient percuter un autre joueur, je veux dire, c'est du rugby. Et le joueur perpignanais vient très mal plaqué, il est haut comme ça, avec il expose complètement son visage. Et effectivement, il prend l'épaule dans le visage. En plus, le joueur catalan avait eu le nez en sang, dents cassées, etc. Donc ça avait amplifié le phénomène, quoi. Mmh. Mais en fait, dans l'analyse, je me dis, mais il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Et donc, alors maintenant, je crois que c'est toujours le cas. Les arbitres, quand c'est un carton rouge, font un rapport à la Ligue nationale de rugby. Font un rapport pour expliquer les circonstances du carton rouge. Ne donnent pas de sanctions. C'est pas les arbitres qui donnent tant de jours de suspension, etc. Ça, c'est une commission totalement indépendante. C'est pas les arbitres. Les arbitres expliquent ce qui s'est passé. Et donc, dans mon rapport, j'ai expliqué que sur le terrain, avec les images du grand écran proposé, etc., etc., et l'environnement, j'avais jugé que la faute de Sergio Parisse nécessitait un carton rouge, mais après revisionnage des images, il n'y avait aucune faute de la part de Sergio Parisse, que c'était une action de jeu, de rugby, et que l'accident malheureux, enfin les dommages qu'avait subi le joueur catalan étaient dus totalement à un accident de jeu, et que pour moi donc il faudrait, il faudrait annuler le carton rouge parce qu'encore une fois je ne prends pas cette décision là, mais que après revisionnage des images, finalement il n'y avait aucune faute. Et donc la Ligue nationale de rugby a pris en compte mon rapport et donc a annulé le carton rouge. En tout cas, Sergio Parisse, hormis la sanction sportive sur le match en lui-même, n'a pas eu de sanction autre que cette sanction. Donc, a pu être requalifié dès le match suivant et a pu jouer avec son club dès le match suivant. Et c'était pour moi normal qu'un arbitre puisse dire « Je trouve que ça ne sert à rien de rester cloîtré derrière une décision. » C'est ce que j'ai fait quand j'étais jeune. Parce que voilà, j'étais comme ça et que peut-être que comme j'étais jeune, je me renfermais sur une bulle sur moi-même pour essayer de me protéger. Donc j'avais toujours raison, alors probablement j'avais tort des fois. Et avec l'expérience, bah, du coup tu t'aperçois que dire que tu as tort, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est juste au contraire, c'est un aveu un aveu de force, quoi, un aveu de comme quoi tu es très conscient de ce que tu fais et tu as cette responsabilité de pouvoir dire que tu t'es trompé. Donc donc ça ne m'avait pas gêné à l'époque de le dire que je m'étais trompé, surtout que c'était injuste de sanctionner un joueur qui aurait pu prendre plusieurs semaines, parce que si j'avais gardé ma vision des choses sur le terrain, que j'avais dicté dans mon rapport ce que j'avais vu sur le terrain, ce que j'avais analysé, il aurait pu prendre 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, quoi. Ça aurait pu finir comme ça. Mais pour un joueur qui n'avait finalement rien fait, si j'étais pas revenu sur mon analyse. Voilà, donc ça me paraissait important, et encore une fois, c'est pas un aveu de faiblesse de reconnaître qu'on a tort, quoi.
Non, au contraire, je crois même que Sergio Parisse l'avait reconnu publiquement, oui. avait apprécié d'ailleurs ce retour en arrière. J'ai souvenir aussi que tu disais, alors que tu prenais ta retraite, mais très, très peu de temps à la fin de ta carrière d'arbitre, que des arbitres justement pro n'étaient pas forcément libres de dire ce qu'ils voulaient.
Ils ne peuvent pas, c'est normal.
Tu le confirmes encore aujourd'hui?
Oui, mais c'est normal. Un arbitre professionnel représente une institution qui, pour eux, est la Fédération française de rugby ou la Ligue nationale de rugby, alors les deux, on va dire. Donc un arbitre qui parle dans la presse pour juger un cas, d'autant plus qu'il ne serait pas le sien, par exemple, c'est-à-dire on demanderait l'avis, alors Monsieur Ludovicaire, puisque tu me parlais de Ludovicaire tout à l'heure, et qu'est-ce que vous pensez de Oli Davidson qui a sifflé un an avant lors de Irlande-Italie? Ben, Ludovicaire, il a pas du tout la possibilité ou la position pour pouvoir s'exprimer. Oui, ça me paraît normal, il ne peut pas juger un collègue en activité alors que lui-même est en activité. Et en plus, il représente des institutions, donc il engagerait forcément la Fédération française de rugby avec lui. Donc c'est pas anormal que les arbitres n'aient pas le droit de s'exprimer comme ils veulent, quand ils veulent, parce qu'ils mettraient en jeu une institution complète et une corporation complète. Donc c'est pas le rôle d'un arbitre de faire ça, c'est plutôt le rôle au responsable des arbitres de faire ça. Ça me paraît normal. Donc, je n'ai pas de souci avec ça quand j'étais en activité, en tout cas.
Et c'est sûrement peut-être aussi là que germe ton idée de, tu en parlais tout à l'heure de ta chaîne YouTube pour que cette parole qui n'est pas libérée soit enfin en tout cas libérée par pour expliquer les actions, les règles qui sont pas toujours simples et qui changent souvent. Tu le disais tout à l'heure, rendre l'arbitrage plus clair. Le but, c'est pas forcément de critiquer les arbitres, évidemment, c'est plutôt d'expliquer l'arbitrage, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement. En fait, l'idée de cette chaîne, alors forcément, il a fallu que je me désengage de tous les liens que j'avais dans le rugby. C'est-à-dire que j'ai, en accord avec le club, hein, beaucoup ont dit oui, Alexandre Ruiz t'a viré du SA15.
Voilà, oui, parce que tu étais, je le précise.
Alexandre Ruiz, c'est un ami.
Oui, tu étais à Soyou-Angoulême à ce moment-là. Comme,
À Soyou-Angoulême, tout à fait. Ouais.
Je l'ai pas dit.
Voilà, j'avais dit déjà à Alexandre. Au mois de novembre 2000, on est encore en 2026, en 2025, j'avais dit fin d'année, peu importe ce qui arrive, j'arrêterai ma mission dans le staff. J'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de voir autre chose dans le rugby, me rapprocher plus de la presse, de la communication, des choses comme ça, parce que je pense que l'arbitrage, dans le milieu de la presse, dans le milieu de la télé, etc., n'est pas assez représenté. On parle beaucoup de rugby, beaucoup de commentateurs, de consultants sportifs, rugbystiques s'aventurent dans le domaine de l'arbitrage sans avoir toutes les compétences particulières et ne peuvent, comme ils n'ont pas baigné dans ce milieu-là, ils ne peuvent pas avoir le ressenti d'un arbitre qui a été en fonction, voilà, de ressenti de la corporation. Et donc, j'avais envie de prendre cette parole-là, mais il fallait que je me désengage de tout lien avec un club ou avec la fédération elle-même ou la ligue. Et donc cette chaîne YouTube a vu le jour pour pouvoir ouvrir notre rugby, ouvrir les règles de l'arbitrage, tu l'as dit, et qui sont très compliquées, au plus grand nombre. Parce que 80% des gens qui sont dans un stade de rugby, que ce soit de 5000 personnes ou de 80 000 personnes, 80% de ces gens-là viennent au stade parce qu'ils aiment l'ambiance rugby. Ils aiment le combat que proposent les joueurs de rugby, mais ne comprennent globalement pas grand-chose à ce qui se passe sur le terrain.
80%.
Pour savoir où est le ballon et un essai qui est marqué, parce que le voisin d'à côté, il a sauté parce qu'il était content.
C'est beaucoup voilà. 80%. Dire que
80%. Ouais, alors j'exagère un peu, mais globalement, des techniciens arbitrage... Il y en a quasiment pas dans un stade de rugby, mais 80%, ouais, c'est 80%. Disons que beaucoup pensent connaître la règle, mais voilà, l'interprètent à leur façon, ou alors n'ont pas les dernières actualités. Donc voilà, donc j'entends, moi quand je suis assis dans une tribune, j'entends énormément de choses et beaucoup de bêtises, souvent, et ces bêtises-là font ne pas aimer un arbitre parce qu'il a pris, il aurait pris une mauvaise décision, alors que c'est tout simplement l'information qui a été très mauvaise, qui a été mal donnée. Voilà, donc c'était tout ça. Et donc l'idée de cette chaîne, c'est vraiment les gens, les abonnés viennent et sur des cas différents, sur des règles différentes. J'ai parcouru la passe en avant, je suis revenu sur des cas de règles particuliers, leur permet de se dire, bon ben ok, maintenant j'ai vu de la part d'un arbitre comment on juge la passe en avant, par exemple. Je râlerai probablement moins dans les tribunes, et à mon entourage, quand je suis assis dans une tribune, je leur dirais « Attendez, non, en avant, il a bien fait l'arbitre de ne pas le siffler, parce qu'il y a l'inertie, et l'inertie, on ne peut pas l'ignorer, c'est impossible, un joueur à pleine vitesse, quand il fait une passe, le ballon continue vers l'avant, etc. » Voilà. Et c'est ces sujets-là que j'ai envie d'évoquer sur cette chaîne, et qui permettent au plus grand nombre de mieux comprendre notre rugby. Et finalement, je le fais presque d'intérêt général, cette chaîne. Pourquoi ? Parce que plus les gens comprendront le rugby, plus ils auront plaisir à venir le voir et plus ils attireront des gens avec eux pour venir voir le rugby. Le rugby est en pleine expansion, on le sait, les téléspectateurs devant la télé, l'affluence au stade, enfin, c'est exponentiel à mort, quoi. Et donc, je pense qu'on peut continuer là-dedans, mais il faut notre rugby. Moi, je ne regarde pas le football américain parce que j'y comprends rien. Mais si demain, je comprenais le football américain, peut-être que je me passionnerais au football américain. Ben, c'est ça. L'objectif de cette chaîne, c'est de donner un maximum de clés à tous ces spectateurs et téléspectateurs qui adorent ce sport pour leur ambiance, pour tout ce que ça représente, les valeurs du rugby, etc. Et en plus, leur ajouter un facteur connaissance règle et d'apprécier ce qu'ils regardent, parce qu'ils comprennent ce qu'ils regardent. Voilà, c'est ça l'intérêt de cette chaîne YouTube.
Et tu pourrais avoir aussi le sentiment que l'on pense que les consultants, tu les évoquais à la télé, quels que soient les supports, hein, télé, radio,
Oui,
quelles que soient les chaînes ou
peu
autres, tu disais donc ne sont pas assez compétents, c'est ça?
importe. C'est ça. Non, pas assez de connaissances, ouais. De
D'accord.
connaissances du milieu de l'arbitrage. Parce qu'on peut avoir été un très grand joueur de rugby, et j'en entends parler sur les différents plateaux, télé, radio, tu l'as dit, qui parle très bien de rugby, de tactique, de stratégie, de tout un tas de choses. Mais dès qu'on rentre dans le domaine de l'arbitrage, là, c'est le flou total, quoi. Et ils ont la crédibilité pour parler de rugby, ils n'ont pas la crédibilité pour parler d'arbitrage. Il y a certains qui s'expriment sur l'arbitrage, qui donnent des positions d'un arbitre. J'ai vu dire des conneries en plus. J'ai vu en Coupe d'Europe des consultants parler du bunker, alors que le bunker n'existe pas en Coupe d'Europe. Voilà, j'ai vu des énormités comme celle-ci. Donc voilà, donc c'est ce qui me fait dire qu'il n'y a pas assez de représentation arbitrage au niveau de la communication. Et on sait que le grand public regarde beaucoup France 2, Canal+, TF1 et Sud Radio, etc. Écoute beaucoup ce genre de support. Votre site, Rugby Amateur, hein, qui est aussi très regardé et très suivi. Et donc voilà, c'est tout ce genre de support. Et personne ne va ouvrir la règle. C'est plutôt à la règle de venir s'exposer auprès du grand public. Et pas le contraire. Faut pas s'attendre à ce que les gens ouvrent la règle du rugby pour comprendre comment on s'y fait de mêlée. Voilà, donc c'est plutôt l'inverse. Donc c'est ce que j'essaye de faire, c'est ça, c'est l'inverse. Moi, d'ouvrir le bouquin et de l'exposer d'une façon ludique à tout le monde et d'une façon très compréhensible.
Tout ça ressemble à la définition d'un consultant sur une future chaîne télé, non?
Écoute, si en tout cas j'ai pas reçu d'appel, mais si ça venait à se présenter, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'animerait et que j'aurais vraiment envie de faire avec grand plaisir.
Bon. Bah écoute, en tout cas, merci pour ce temps, merci pour ces confidences aussi, puisqu'elles avaient le don d'être exclusives et surtout nouvelles. Donc merci pour ces points-là. Je précise aussi que ta passion du rugby ne t'a pas quitté, puisque j'ai souvenir que sur Rugby Amateur, on avait mis en avant ton retour sur les terrains comme demi de mêlée,
Eh oui,
en
eh oui,
Régional 2,
eh oui,
avec ton club
tout à fait.
de la Couronne. Tu en es où d'ailleurs à ce niveau-là?
Eh bien, quand je te l'ai dit, quand j'ai arrêté le jeu, pardon, pour devenir arbitre à 24 ans, ce qui m'a manqué, c'est les copains, l'odeur du vestiaire, l'odeur de l'huile camphrée qu'on met sur les cuisses, cette espèce de tension qui existe dans un vestiaire avant le match, ce silence qu'il peut y avoir, les crampons sur le carrelage, etc., etc., etc. Et j'avais envie de pouvoir revenir après ma carrière d'arbitre à ces odeurs, à ces ressentis, à cette camaraderie de rugby, et puis plaquer, être plaqué, se faire mal. C'est quelque chose qui m'avait manqué, que j'avais quitté à regret pour une grande carrière d'arbitre, oui, mais que j'avais quand même quitté à regret et j'avais envie d'y revenir. Je me suis dit, je peux pas clôturer ma vie rugbystique, en tout cas sur le terrain, sans regoûter à tout ça. Donc, j'ai signé dans un club ici à côté d'Angoulême, La Couronne, tu l'as dit, le COC, La Couronne, qui joue toujours en Régional 2. Et la première année, j'ai pu jouer avec mon petit frère qui, lui, est d'un plus haut niveau que moi et qui joue pilier gauche en plus. Voilà, on a 7 ans de différence. Et donc, il a signé avec moi La Couronne. On a joué un an et puis lui, il est reparti en Fédéral 1 à Barbezieux. Voilà, donc il a quand même un meilleur niveau rugbystique que moi sur le terrain. Et donc voilà, donc on a pu partager une année ensemble alors qu'on n'avait jamais joué ensemble dans le club de la Couronne. Et donc j'ai fait 2 ans, on a gagné deux boucliers du territoire, parce que maintenant il y a ces boucliers du territoire charentais avec le club de la Couronne. Et au bout de 2 ans, la raison a commencé à me dire, j'ai eu 49 ans, je l'ai dit il y a 2 jours, donc la raison m'a dit, bon, et mon épouse, je ne sais pas si c'est mon épouse et la raison ou la raison et mon épouse, je ne sais pas trop en quel sens il faut le prendre. M'ont fait comprendre qu'il fallait pas que j'avais peur ou pas que j'étais blessé, mais que s'il pouvait m'arriver quelque chose d'important, je sais pas moi, une rupture des croisés, une épaule en l'air, comme ça peut arriver n'importe quand dans un match de rugby, ça pourrait fortement m'handicaper, surtout que maintenant j'ai créé une marque de compléments alimentaires et donc j'ai des magasins sous ma responsabilité, j'ai 3 magasins sous ma responsabilité. Bon, ça peut avoir des dommages collatéraux assez importants. Et puis, avec la vie de famille, être pris tous les week-ends pour le rugby, c'était plutôt très compliqué, quoi. Donc voilà, donc j'ai fait 2 ans et voilà, j'ai arrêté. J'ai arrêté. C'est ma première année sans terrain de rugby. Voilà, c'est ma première année à part avec le SA15.
Mais que tu compenses par beaucoup de paroles et de prises de parole sur le rugby. Donc on l'a bien compris, on t'entend sur ta chaîne YouTube et on peut également se fournir en complément alimentaire. Je crois que les Sud-Africains viennent souvent dans tes boutiques. Tu
C'est ça.
me le dis en
Ouais,
antenne.
j'ai beaucoup de joueurs qui viennent nous voir.
Bon. Laurent, merci encore donc pour ce temps accordé à Rugby Amateur. C'était un vrai plaisir. On a balayé ta carrière et ta vie. On te laisse la conclusion.
Eh bien, écoute, merci à vous déjà, merci à vous de m'avoir sollicité. Tu veux que je conclue, alors, je conclue sur ma carrière. Alors, que je l'ai dit déjà, j'ai adoré ce que j'ai fait. Si vous voulez devenir arbitre, il y a une adresse mail, c'est jeveuxarbitrer@ffr.fr. Vous voulez devenir arbitre, vous voulez avoir une carrière comme la mienne, ou mieux, parce que je vous la souhaite mieux quand même. Ben, vous allez sur cette adresse mail, vous écrivez comme quoi, quel âge vous avez, votre nom, prénom, vous voulez devenir arbitre, vous dites où vous habitez et vous serez recontacté. Donc devenez arbitre. Devenir arbitre, c'est d'être un meilleur homme. Parce que vous prenez des décisions, vous êtes confronté à la pression et ça vous servira dans votre vie familiale et dans votre vie professionnelle. Donc faites-le, devenez arbitre et vous n'aurez jamais aucun regret.
Rien à rajouter, superbe conclusion. On te remercie encore. On te dit à très bientôt, Laurent.
À bientôt, salut à tous.